Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Attention, l'épisode que vous êtes sur le point d'écouter contient des mentions d'agression sexuelle, de viol et de nécrophilie. Si vous êtes sensible à ces sujets, nous vous conseillons de passer à un autre épisode. Sinon, bonne écoute.
Bienvenue dans cette nouvelle affaire Warren. Ce cas, en plus de posséder énormément de particularités, a suscité beaucoup de réactions, et particulièrement de la part de l'auteur du livre qui en a découlé. Mais trêve de suspense, c'est parti pour un nouveau moment de culture. Le cas Snedeker démarre au printemps de l'année 1986. Cette année-là, Philip Snedeker, 13 ans, reçoit une très mauvaise nouvelle. On vient de lui diagnostiquer un cancer, et plus particulièrement un lymphome de Hodgkin. S'il ne suit pas un traitement adapté, il ne lui reste que 6 mois à vivre. Le souci, c'est que Philip Snedeker et sa famille vivent dans le nord de l'état de New York, et que l'hôpital le plus proche pouvant lui procurer les soins dont il a besoin se trouve à Southington, dans le Connecticut, à plus de 480 km de chez eux. Bien sûr, les parents n'hésitent pas. Enfin, quand je dis les parents, c'est majoritairement Carmen Snedeker, la mère de famille, qui est chargée de faire l'aller-retour avec son fils chaque jour. Donc 4 heures aller, le temps des traitements, et 4 heures retour. Autant vous dire que la famille se rend vite compte que ça ne va pas être possible de continuer sur ce rythme. Surtout qu'en plus de Philippe, il y a 2 autres garçons et une fille dont il faut s'occuper. Les Snedeker sont obligés d'embaucher une babysitter quasi à plein temps. Rapidement, la décision est prise de trouver un logement à proximité de l'hôpital. Mais les biens immobiliers pouvant accueillir une famille de 6 personnes proches de l'hôpital et dans un prix plutôt raisonnable, c'est plutôt rare. Mais par chance, un jour où elle se rend à l'hôpital, Carmen tombe sur une maison au style colonial avec un panneau à louer. Elle tente de se renseigner sur le bien, sans grand espoir vu le nombre de refus qu'elle a déjà essuyé. Le lieu est en rénovation. Elle le visite tant bien que mal, sans gêner pour autant les travaux. L'endroit est parfait pour accueillir sa famille. Et surtout, il possède un immense sous-sol pouvant être aménagé afin d'y accueillir ses 2 plus grands garçons pour qu'ils aient un semblant d'indépendance. De plus, le loyer est dans le budget. La décision est donc prise d'en parler à son mari, Allen. Allen Snedeker est alors contremaître et pense qu'il pourrait demander à son employeur une mutation dans le Connecticut. Spoil de ce détail, il n'aura jamais sa mutation. Enfin, s'il l'a même demandé un jour. Carmen met tout de suite une option sur le bien. Leur dossier est accepté. Ils vivront maintenant dans le Connecticut.
Comme Allen n'a pas encore vu le lieu, le couple se rend sur place de façon à déposer quelques affaires, vu que les travaux de rénovation sont maintenant terminés. C'est ce jour-là que les nouveaux locataires auraient découvert que cette demeure cachait en réalité un secret. En entrant dans le sous-sol, Allen repère une pièce que Carmen n'aurait pas vue à cause des travaux. Et dans celle-ci, il découvre ce qui ressemble à du matériel médical. Brancard, drain, scalpel, étiquette à orteils et ce qui semble être un monte-charge à cercueil.
À ce moment-là, j'ai réalisé qu'il s'agissait d'un funérarium. Comment pouvions-nous vivre dans cet endroit? Comment pouvais-je amener mes enfants dans cette maison? Quel genre d'environnement cela va-t-il être s'il voit ce genre de choses? Philippe ne devrait pas être exposé à ces choses. parce qu'il n'était qu'un enfant et que je ne voulais pas qu'il pense à sa propre mortalité ou même à l'éventualité de sa mort.
D'après les Snedeker, le propriétaire ne leur aurait pas dit que ce lieu était effectivement un ancien funérarium. En même temps, il n'a aucune obligation de le faire puisque personne n'est mort sur place. Surnommé la Hallahan Funeral Home, du nom de celui qui a tenu cet établissement à partir de 1936, cette bâtisse a été vendue en 1985 à un certain Darrell Kern qui décida d'en refaire une habitation, comme ce qu'elle était avant 1936. Et pour un funérarium, on peut dire qu'elle était excessivement bien placée, puisque l'hôpital où était suivi Philippe était à 5 minutes à pied de la maison, mais également à 5 minutes à pied du cimetière, en allant de l'autre côté de la rue. La Hallahan Funeral Home était donc parfaitement équidistante des lieux. Donc niveau activité funéraire, c'était parfait. Par contre niveau moral, en 1986, pour un ado atteint d'un cancer, t'es pas fifou.
Mais la famille n'a plus le choix. Jamais ils ne trouveront un autre bien aussi proche de l'hôpital et pouvant accueillir 4 enfants et 2 adultes. Surtout que le coût du traitement médical associé à la fatigue engendrée par le trajet ne leur permette plus de faire des allers-retours quotidiennement. Le couple prend donc la décision d'emménager. Ils garderont le secret sur le passé du lieu tout en espérant que le propriétaire a simplement oublié de retirer tout le matériel avec les travaux. Le bail est alors signé le 30 juin 1986. C'est lors de la visite suivante que les choses auraient commencé à être étranges. Après l'un des traitements de son fils, Carmen en profite pour déposer quelques affaires et faire découvrir la nouvelle maison à Philippe. Alors que celui-ci part à la découverte du lieu, Carmen en profite pour faire le ménage. Ce qui est alors considéré comme le tout premier signe paranormal se manifesta.
L'eau de la serpillière était rouge sang. Je veux dire, c'était un rouge épais et profond. Ça m'a donné la chair de poule. J'ai commencé à m'inquiéter du fait que j'abîmais le sol.
L'eau de la serpillière serait donc devenue rouge sang. Carmen nettoie le sol au plus vite avec de l'essuie-tout avant que Philippe ne revienne, afin qu'il ne soit pas choqué. Et pendant ce temps, celui-ci est toujours en vadrouille dans la maison. Et forcément, il va au sous-sol. Là-bas, il aurait eu l'impression que son corps se glaçait de l'intérieur. Et aurait eu l'impression que quelqu'un l'observait. Puis soudainement, c'est une voix qui aurait dit son prénom.
Il m'a parlé d'une voix qu'il appelait par son nom et je pensais que c'était une voix intérieure. Je ne croyais pas qu'il entendait vraiment quelqu'un l'appeler par son nom. Et je regardais mon garçon malade, en pensant, il est si proche de la mort qu'il peut sentir que c'était un funérarium. Il a dit, « Maman, nous devons quitter cet endroit » et il tremblait visiblement. Et il a dit, « Cet endroit, c'est le diable, il est diabolique » et j'ai répondu, « Fils, le mal vit dans les cœurs des hommes, pas dans une maison » et c'est ce que je croyais vraiment à l'époque. Et il a dit, « Tu vas voir. »
Nous avons donc de l'eau qui change de couleur, un adolescent qui entend des voix et qui commence à menacer sa mère sur le fait que cette maison serait diabolique. Oh, mais ça commence bien! Et même si Carmen pense que son fils a ressenti qu'il s'agissait là d'un funérarium, il est quand même plus logique de se dire qu'il est également tombé sur la pièce qui contient l'intégralité du matériel de thanatopraxie. Et ça, en fait, on le sait dès le premier jour où la famille a emménagé. Philippe a alors partagé sa découverte avec son petit frère Bradley, qui a alors 12 ans.
Mon frère m'a dit que c'était un funérarium et il m'a emmené faire le tour et il m'a fait faire la grande visite du sous-sol. En fait, mon frère m'a fait m'allonger sur le brancard dans la morgue sans me dire ce que c'était. Ça m'a vraiment fait flipper mais je ne voulais pas fuir parce que mon grand frère, vous savez, je devais avoir l'air fort pour mon grand frère. C'était assez effrayant, ça m'a fait très peur.
D'après les dires des Snedeker, le propriétaire avait enlevé une bonne partie des affaires, mais avait laissé ce qu'il pensait pouvoir être utile pour la famille. Si l'on en croit cette version, le proprio a donc laissé une civière, au cas où, des étiquettes pour marquer les pieds des morts, au cas où, et même quelques photos d'époque, au cas où. Bon, quelque part, si c'est le cas, il n'avait pas totalement tort, puisque la civière a en effet servi à Philippe pour faire peur à son petit frère. Quoi qu'il en soit, et malgré tout, la décision est prise d'installer Philippe et Bradley au sous-sol. Donc de toute façon, en vivant au sous-sol, ils auraient bien fini par tomber dessus. Durant la semaine, Allen quitte le domicile et part travailler. Carmen se retrouve alors seule pour gérer ses 4 enfants, et ce, jour et nuit. Et évidemment, dès les premiers jours, des choses quelque peu étranges semblent se produire. Cette fois, c'est la petite Jennifer qui aurait vu une entité dans sa chambre.
Elle m'a dit qu'il y avait une femme qui la regardait dans sa chambre. Ce qui m'a le plus marqué, c'est qu'elle m'a attrapée et m'a serrée dans ses bras et quand je l'ai touchée, elle tremblait partout.
Quand la mère de famille arrive dans la chambre, il n'y a rien. Elle se dit alors, en toute logique, que ce sont les deux grands garçons qui commencent à jouer des tours à leur petite sœur. Elle aurait donc été les engueuler, mais eux auraient affirmé qu'ils n'y étaient absolument pour rien. Durant la nuit, les deux garçons les plus âgés, qui dorment au sous-sol, je vous le rappelle, commenceraient à voir eux aussi des choses étranges, et particulièrement dans la salle où est amassé tout le matériel médical. Il y aurait alors des ombres qui se déplaceraient et qui utiliseraient justement les objets entassés. Cette nuit-là, les enfants auraient fini par dormir dans le salon, à l'étage. Par la suite, Philippe et Brad auraient continué à entendre des voix, à voir des silhouettes se déplacer, et aussi à entendre la chaîne métallique permettant à l'époque de monter les cercueils à l'étage, commencer à bouger. Mais Carmen dit qu'à ce moment-là de l'histoire, elle continuait à être persuadée que ses enfants lui jouaient des tours. Le week-end suivant, Carmen et Al auraient pris la décision de tout avouer à leurs enfants sur le passé du lieu. Évidemment, tout en leur expliquant qu'il n'y avait absolument rien à craindre, et qu'il s'agissait aujourd'hui d'une maison tout à fait banale. Il y aurait tout de même eu une piqûre de rappel envers Philippe, afin de lui intimer l'ordre d'arrêter de mettre des histoires de fantômes dans la tête de son petit frère. Et effectivement, il aurait tenté de suivre les consignes, en disant à son petit frère Brad que tout ce qu'il voyait était dû au traitement contre son cancer.
Mais même si Philippe semblait accepter les ordres de ses parents, ces derniers commençaient sérieusement à s'inquiéter pour son état mental. Les enfants auraient continué malgré tout à voir des fantômes et à donner de plus en plus de détails sur ces derniers. D'une manière générale, il y aurait 4 personnes habillées de noir décrites comme portant des trench coats. Vu que personne ne veut les croire, ils prennent la décision de dormir la lumière allumée de façon à diminuer le nombre d'apparitions nocturnes. En parallèle de cela, Carmen aurait commencé à s'apercevoir que des crucifix qui avaient été installés dans la maison auparavant disparaissaient les uns après les autres sans qu'elle n'arrive à remettre la main dessus.
Ils ont commencé à disparaître un à un. La majeure partie de l'activité restait dans la morgue jusqu'à ce que ces crucifix disparaissent.
Mais sa vaisselle se rangeait également toute seule. Ça par contre c'est pratique. Évidemment, ces incidents isolés auraient été à l'époque mis sur le dos des enfants qui tenteraient de faire des blagues. Toutefois, lors d'un entretien avec l'oncologue de Philippe, elle pose la question « Docteur, le traitement de mon fils peut-il lui provoquer des hallucinations ?» Selon elle, le médecin lui aurait dit que ce n'était pas le cas et que ses médicaments ne pouvaient déclencher ni hallucinations ni délire. Le temps passe et l'argent commence sérieusement à manquer. Durant un week-end, Al fait les comptes et se rend compte que la facture d'électricité explose littéralement le budget. Et par conséquent, ce sont donc les deux grands garçons au sous-sol qui sont visés. Les nuits entières avec la lumière allumée, c'est fini. Al prend la décision de virer toutes les ampoules, sauf une sur la table de chevet. Mais cette décision aurait eu de bien lourdes conséquences.
Eh bien, après qu'il ait retiré les ampoules, une nuit j'étais allongé dans mon lit et ma sœur a descendu les escaliers et elle a commencé à allumer l'interrupteur. Et j'ai dit... « Petite sœur, qu'est-ce que tu fais? Tu n'es pas censée être ici » et je me suis levé et je l'ai poursuivi dans les escaliers puis dans le salon. Mon père et ma mère étaient assis là et ils ont dit « Qu'est-ce que tu fais hors du lit? Tu dois redescendre et aller te coucher » et j'ai dit « Où est ma sœur? Elle était en bas à l'instant, en train de jouer avec les lumières » ils ont dit « Non, elle est au lit. Va voir par toi-même » alors j'y suis allé et j'ai vu ma sœur qui dormait. Je marchais à côté de mon père et il m'a dit « Arrête de déconner parce que tu sais que j'ai enlevé ces ampoules. »
Malgré cet événement, il semble que la véritable cible de cette attaque n'était pas Brad, mais Philippe. Lorsque Brad a poursuivi sa pseudo-sœur, Philippe était seul. Et cette nuit-là, il se serait passé quelque chose qui aurait changé le jeune garçon. Dès le lendemain, Philippe est devenu distant, solitaire, et aurait même demandé explicitement à avoir la chambre pour lui tout seul au sous-sol. Et se serait même mis à porter du noir. Bon, on est d'accord, certains appelleraient ça tout simplement l'adolescence. Vouloir une chambre seule à son âge, c'est plutôt normal, hein. D'ailleurs, l'histoire ne nous dit pas si sa consommation de mouchoirs a augmenté, par exemple. Mais pardon, je diverge, partons toujours du principe qu'il est bien arrivé quelque chose de perturbant à Philippe cette nuit-là. Une bonne nouvelle allait enfin tomber chez la famille Snedeker. Philippe répondait correctement au traitement et était donc en rémission. Tous ses efforts n'auront pas été vains. Pour autant, Philippe ne semble pas se réjouir de la nouvelle. Quelque temps après, la sœur de Carmen annonce qu'elle divorce de son mari. La mère de famille propose alors à ses deux nièces, Tammy et Kimberly, de venir s'installer quelque temps chez eux. Nous sommes alors quasiment un an après l'emménagement. De ce que l'on sait, Tammy et Philippe auraient été depuis toujours très proches. Du coup, Carmen espérait que cela aiderait son fils à retrouver un esprit de famille. Oui, inviter la charmante cousine blonde de Philippe à venir s'installer pour l'aider, c'est potentiellement une bonne idée. Toutefois, Taimi aurait trouvé Philippe particulièrement changé, sentant carrément du malheur et de la méchanceté émaner de lui.
Mais malgré tout, le plan de Carmen aurait, semble-t-il, porté ses fruits. Car le jeune homme s'est très vite confié à sa cousine. Il lui aurait parlé de ce qu'il avait vu, entendu, mais également du fait qu'aucun adulte ne le croyait. Il lui aurait également confié à quel point il se sentait seul et ô combien il détestait ses parents. Pour l'instant, ça ressemble toujours à l'adolescence, on va pas se le cacher. Au-delà de toutes ces confessions, Tammy rapporte à sa tante que Philippe voit régulièrement des morts se promener librement dans la maison. Mais surtout qu'une présence serait constamment autour de lui. Celle-ci lui dirait régulièrement de faire du mal à sa famille. Et toujours d'après Tammy, si Philippe ne le faisait pas, eh bien c'est à lui que l'entité s'en prendrait. Tammy annonce à Carmen que son fils est suivi par un démon.
Ce démon devenait plus fort et plus méchant envers lui à chaque fois qu'il venait à lui. Il ne pouvait pas quitter la chambre, il ne pouvait pas répondre. Ce démon pouvait lui dire de monter à l'étage et de faire quelque chose de mal.
Démon ou pas, Philippe est de plus en plus violent. Certes, il s'en prend à ses parents, mais commence également à s'en prendre à son petit frère et à sa cousine qui vient s'interposer. En bref, il devient violent avec toutes les personnes qui vivent sous le même toit que lui. Carmen prend alors la décision de l'emmener voir un psy. Apparemment, ça ne lui aurait pas plu. Ou si on en croit l'histoire, ça n'aurait pas plu au démon. Et du coup, durant la nuit suivante, il aurait tenté d'agresser sexuellement sa cousine. Cette même nuit, Carmen appelle en urgence l'hôpital psychiatrique pour faire interner son fils.
Carmen et Al auraient suivi leur fils à l'hôpital, ayant peur qu'il ait définitivement perdu la raison. Mais avant d'être enfermé, Philippe aurait crié à ses parents que maintenant qu'il n'était plus dans la maison, c'est à eux qu'il allait s'en prendre. Comprenez, le démon n'a plus son jouet, et il va donc se venger sur le reste de la famille. Et si l'on en croit les Snedeker, effectivement, les choses allaient empirer.
Il y avait un homme qui avait l'habitude d'apparaître dans ma chambre après le départ de mon grand frère. Il est l'une des choses les plus effrayantes que j'ai vues. Il était juste en face, il avait les cheveux longs mais il avait une méchante cicatrice qui descendait au centre de son visage et tout ce côté de son visage était lisse, un peu comme du métal. Et il avait un simple cercle pour œil. Il n'y avait aucune couleur, aucune pupille ou quoi que ce soit. Et il s'est mis à voler dans tous les sens.
Et cette description que Brad donne de l'entité est également celle que Philippe aurait donnée du démon qui le poursuivait. Au début, les choses seraient restées à ce même niveau de hantise. En parallèle, le diagnostic tombe. Philippe serait schizophrène. Il restera un mois et demi à l'hôpital avant d'être envoyé dans une pension spécialisée dans le Tennessee. Il est donc confié à une autre partie de la famille et ne remettra plus jamais les pieds dans cette maison du Connecticut. Après son départ définitif, les choses auraient empiré puisque la première attaque physique aurait eu lieu. Et c'est Taimi qui en aurait été la cible. Surtout que cette attaque fait écho à ce que son cousin lui aurait fait subir un peu plus tôt. C'est cet incident qui aurait été le point de départ de l'inquiétude de Carmen.
Elle rentrait d'un rendez-vous et elle est allée dans sa chambre et elle a essayé de s'allonger dans son lit et elle a senti quelque chose apparaître sous les couvertures vers elle et il tirait ses sous-vêtements et lui touchait ses parties intimes. Elle s'est approchée de son chapelet et la croix s'est détachée. C'est alors qu'elle s'est levée et a couru dans la chambre où j'étais. Je ne la croyais vraiment pas. Je pensais que le garçon plus âgé l'avait entraînée dans ses histoires de funérarium et du fantôme qu'il avait vu. Quand je suis entrée dans sa chambre, je me suis assise avec elle et j'ai ouvert et lu la Bible. Elle s'est enroulée autour de moi. Elle était tellement fébrile. Tu le sens arriver? Tu le sens arriver? Carmen, il arrive. Et je la repoussais, mais la troisième fois qu'elle a fait ça et que je l'ai repoussée, j'ai vu un bras, les jointures, les articulations et le poignet remonter sous sa longue chemise de nuit, sur sa poitrine et repartir à travers le mur. À ce moment-là, j'ai réalisé que quelque chose se passait. Je l'ai attrapé. J'ai couru vers ce qui était autrefois la chapelle pour utiliser le téléphone.
Après cette attaque, la mère de famille aurait fait appel à l'église. Un prêtre de sa paroisse aurait été envoyé à sa rencontre. Celui-ci n'aurait fait que discuter avec la mère de famille. Tout ça pour finalement lui donner un conseil. Bon, écoutez, oubliez tout ce qui s'est passé et faites comme si ça n'existait pas. D'accord ? Et cette réponse, elle n'est pas si illogique. Du moins, elle se base sur une croyance selon laquelle croire en une entité et lui donner de l'importance la nourrirait et la ferait grandir. Mais Carmen n'est pas du tout satisfaite de la réponse de l'homme d'église et ne voit clairement pas comment elle pourrait juste oublier tout ça. La mère de famille commence alors à se demander si tout ce que Philippe disait était vrai. Lorsque tout le reste de la famille est soit au travail, soit à l'école, elle aurait passé la plupart de son temps dans l'ancienne chambre de son aîné, afin de voir cette fameuse entité. Elle aurait ressenti une ambiance glaciale et de forts frissons, mais aucune apparition. Et la raison aurait été très simple. L'entité avait maintenant envahi toute la maison. Et alors que l'entité s'en prenait jusque-là uniquement aux enfants, la venue du prêtre dans la maison lui aurait fait changer sa cible. Carmen et Al allaient eux aussi être spectateurs de la hantise dont leur parlaient tous les enfants, à commencer par des voix et des ombres.
Il avait plusieurs voix. Parfois, il prenait la voix d'un des enfants pour entrer dans la pièce. Ça pouvait dire « Maman, maman », et il s'agissait de la douce voix de votre enfant, et vous vous retourniez et il y avait cette sombre présence d'une silhouette de fumée se tenant juste là, en train de se moquer de vous. Et puis d'autres fois, il avait cette voix grave et rauque insultante et qui criait des choses profanes et vous insultait. C'était horrible.
Et ne pensez pas que ça n'arrivait qu'à la mère. Al, malgré sa moindre présence à la maison, aurait également subi des réveils nocturnes dus à des voix et à de la musique. Voici ce que Al dit avoir subi en pleine nuit.
La musique pouvait me réveiller la nuit. Je dormais profondément, je pouvais entendre la musique jouer et je me disais à moi-même, qu'est-ce que c'est? Je restais allongé là pendant 5 ou 10 minutes et je l'écoutais. Tout du long, avec la musique, je pouvais entendre 3 ou 4 voix. Il y avait, des hommes âgés, discutant et se répondant. Je me levais toutes les nuits, descendais les escaliers, tout le monde dormait profondément.
Petit à petit, la présence se serait fait plus forte.
Nous avions cette chose qui marchait autour du lit. Il avait de très petits pieds, comme un chat. Nous n'avions pas de chat. Il marchait autour du lit et il s'asseyait. Ça donnait l'impression d'un homme adulte qui s'asseyait sur le lit.
Bizarre. Cette démarche lente, ce poids sur le lit. Ça me rappelle quelque chose. Bref, l'entité semble clairement vouloir s'en prendre aux parents. D'après ce que dit Carmen, le lit se mettrait parfois à vibrer, les draps se soulèveraient, et on aurait même l'impression que le lit respire. En pleine semaine, alors que Al était sur un chantier dans l'état de New York, sa voiture aurait, sans aucune raison, traversé le bungalow où était installé son bureau.
Quand mon mari est allé travailler, sa voiture a démarré, et il s'est garé et allé dans le bâtiment. Ce faisant, la voiture a redémarré et a roulé jusque dans le bâtiment.
Tout le monde peut oublier son frein à main. Al, surtout quand on est fatigué. De son côté, Carmen aurait été attaquée par son rideau de douche et aurait été sauvée par sa nièce Tammy.
Tante Carmen était sous la douche. C'était comme si quelque chose était vivant dans le rideau de douche. Il était enroulé autour d'elle comme s'il essayait de l'étouffer. J'ai dû me battre pour lui arracher le rideau et elle, à l'intérieur, hurlait et paniquait, essayant de se battre aussi. Nous ne sommes plus jamais allés seuls dans la salle de bain après ça. Nous y allions tous par paire.
Mais l'attaque la plus marquante pour le couple se serait produite dans leur lit.
Une nuit, nous étions allongés dans notre lit. Carmen s'était déjà endormie. J'ai senti cette étrange sensation envahir mon corps. Ça a commencé à mes pieds et puis ça a commencé à grimper à travers mon corps. Avant d'avoir eu la chance de tendre la main vers Carmen pour lui dire que quelque chose n'allait pas, j'étais figé, je ne pouvais pas bouger. Et puis j'ai senti cette pénétration cuisante dans ma région anale et j'essayais de crier, d'appeler Carmen pour m'aider d'une manière ou d'une autre. Je ne pouvais plus bouger. Après un moment, je ne sais pas combien de temps, c'est parti, il n'y avait plus de sensation. J'ai réveillé Carmen et j'ai dit, Carmen, je pense que je viens juste de me faire sodomiser par ce démon.
Je sais que ce témoignage devrait me glacer le sang, mais le fait qu'il soit raconté sur un talk show, assis le cul dans un plumard, devant tous les spectateurs, je suis désolée, mais j'arrive pas à prendre le truc au sérieux et j'arrive pas à m'empêcher de ricaner. Le démon serait donc passé aux choses sérieuses en titillant à la région anale de Al. Bon, on va pas se mentir, si vous avez vu notre vidéo sur la paralysie du sommeil, l'effet décrit par Al, ainsi que la pesanteur sur le lit et le lent déplacement de cette entité, eh bien, ça fait très fortement penser à la paralysie du sommeil. Mais pour l'instant, continuons l'histoire du point de vue des Snedeker. Al n'aurait pas été le seul à se faire, disons, mazouter le pingouin. Non, Carmen aussi aurait subi le même sort.
C'était une sorte de douleur pénible qui s'est produite. C'était une douleur horrible, c'était tellement pénétrant et tellement douloureux qu'il n'y avait aucun plaisir à cela et quand ça m'a pris, quand ça m'a agressé sexuellement, il riait avec un tel plaisir. Il appréciait ce qu'il me faisait, j'étais tellement terrifiée que je ne pouvais pas bouger. C'était la chose la plus paralysante que j'ai jamais vécue dans ma vie et ne le souhaiterais à personne.
Je suis sincèrement désolée si le fait de s'être fait... ramonner le couloir à lentilles a pu la traumatiser. Mais est-ce qu'on peut remettre ce rire une seconde, s'il vous plaît? Ok, j'ai ma nouvelle sonnerie de portable.
Et autant vous dire que cette entité semble adorer... faire un swing au deuxième trou, puisque même en cherchant à lui échapper... il aurait continué à être pénétrant.
Une nuit, j'ai couru dans la rue, j'ai été sodomisé tout le long du chemin.
Oui, cette entité semble prendre de plus en plus de plaisir à suivre les membres de la famille en dehors de la maison. On a déjà évoqué le fait que le père de famille a failli se faire tuer par sa propre voiture. Cet accident a été mis par la famille sur le dos de l'entité. Mais au-delà de... défoncer des boîtes à cachous et desserrer des freins à main, l'entité aurait continué à jouer au trouble-paix dans la vie de Taimi.
J'ai essayé plusieurs fois d'aller au cinéma pour être une adolescente normale, passer du temps avec mes amis et des choses arrivaient, d'horribles choses. Les gens étaient giflés, déplacés ou touchés, vous voyez, et ils ne comprenaient pas. Mais moi je savais à cause de ce que nous avions déjà vécu dans la maison et j'en suis finalement arrivée au point où je ne voulais aller nulle part.
C'est finalement grâce à une de ses collègues que Carmen réussira à trouver une nouvelle solution afin de tenter de comprendre ce qu'il se passe chez elle. Alors que des phénomènes se seraient également produits sur son lieu de travail, la notoriété d'un certain couple viendra croiser le destin de la famille Snedeker. Et oui, ça y est, la famille Snedeker contacte les Warren. Nous sommes alors fin juin 1988, presque 2 ans après l'emménagement. Les Warren auraient accepté de venir dès le lendemain matin pour inspecter la maison des Snedeker. Bon, il faut dire en même temps qu'il n'y avait qu'une heure de route entre la maison des Warren et l'ancien funérarium. Mais quand même, ils sont arrivés aussi vite qu'une livraison Amazon. Et effectivement, dès le lendemain matin, ils auraient été au rendez-vous. C'est donc le moment pour nous de dégainer le générique Team Warren.
C'est maintenant que je peux dégainer Pénélope ?
Alors non, on va pas faire ça tout de suite, mais ne t'inquiète pas, cet épisode est limite un hommage à Pénélope tant il y a de choses à dire sur les Warren. Quoi qu'il en soit, le couple Warren en arrivant chez les Snedeker aurait voulu immédiatement faire le tour des lieux. Et croyez-le ou non, mais Lorraine Warren aurait immédiatement ressenti que c'est vers le sous-sol qu'il fallait aller. Incroyable.
Quand je suis descendue, c'était juste horrible. L'infestation était très, très grave. Et je pense que ce qui a choisi cette maison n'était pas un esprit humain. C'était extrêmement écœurant.
Pas le temps de niaiser, les Warren confirment que le lieu est bien hanté. Ils annoncent alors à la famille qu'il va falloir, évidemment, demander un exorcisme à l'église. Mais pour ça, ils leur affirment qu'il va falloir présenter des preuves aux hommes de Dieu. 3 jours plus tard, 4 enquêteurs du paranormal employés par les Warren s'installeront dans la maison, dont le chef d'équipe est John Zaffis, le neveu des Warren.
La première chose que demande l'équipe à la famille, c'est de quitter les chambres pour tous crécher dans le salon. Et la deuxième chose, c'est de ne jamais rester seul pour que l'entité ne profite pas de l'isolement d'un individu pour l'attaquer. Mais cela n'aurait pas suffi. Carmen aurait été la plus touchée émotionnellement à ce moment-là et s'en voudrait toujours de ne pas avoir cru son fils dès le départ. Pour les Warren, elle est alors considérée comme la personne la plus fragile face aux attaques du démon. Du coup, régulièrement, elle s'évanouissait alors qu'elle était entourée de sa famille et de l'équipe. Mais un jour, elle s'est sentie partir, voire tirée vers un endroit très spécial.
Carmen subissait de nombreuses attaques, nous les appelons attaques psychiques, ce qui peut vous entraîner dans cet endroit très sombre et profond.
Je suis allée dans cet endroit qui se nomme Esram, une route désertique de larmes chaudes et j'ai été amenée sur cette route. Ça représente des âmes perdues. Je pouvais réellement ressentir l'émotion, la colère, la souffrance, le désespoir, la tristesse. Il n'y avait pas d'émotions positives, ce n'était que des émotions négatives humaines. Et elles étaient palpables, elles m'ont juste traversé la peau. Je le savais, j'ai ressenti une telle compassion pour ces âmes. Mais je ne pouvais pas quitter la route contre laquelle j'ai été mise en garde. J'y suis restée pendant 8 heures.
En plus de ce que les intervenants appellent des attaques psychiques sur Carmen, il aurait été possible de voir les matelas gonflables installés au milieu du salon bouger tout seul. Encore une fois, comme s'ils respiraient. Les Warren eux-mêmes auraient pu constater la présence du démon.
Nous sommes restés dans la chambre parentale, non pas que nous dormions, mais nous y étions. Et vous pouviez entendre ce palan à chaîne se remonter par lui-même. Alors Ed est descendu là-bas pour voir s'il y avait quelqu'un en train de faire ça. Il n'y avait personne. Il n'y avait personne là-bas, du tout. Il pouvait réellement voir cet acte se produire à ce moment-là.
Bon, vous l'aurez compris, tout semble indiquer que les lieux seraient bel et bien hantés. Les Warren et l'équipe de chercheurs auraient réussi à obtenir des preuves de la hantise. Ed pense qu'il est donc l'heure de médiatiser le cas. Il décide donc, avec l'autorisation de la famille, de contacter la presse. Enfin, il paraît que c'est le ras-le-bol du père de famille qui l'aurait fait craquer.
Mon mari en avait vraiment marre de voir tous ces gens dans la maison. Il revenait du travail, fatigué, il y avait 6 personnes dans la maison. Et il a dit, si cela permet d'en finir plus rapidement, très bien, rendez-le public.
Pour rappel, nous sommes en 1988, ce qui signifie que les Warren ont déjà une certaine notoriété dans le monde du paranormal, mais également auprès des journalistes. Ce sont évidemment ces derniers qui répondront à l'appel des Warren. On vous partage tout d'abord ce petit bout de reportage, même s'il est de très mauvaise qualité, pour vous donner un peu une idée de ce à quoi ça devait ressembler.
La maison hantée de Southampton. Eh bien, il se passe encore quelque chose là-bas et Elizabeth McGuire nous informe les derniers événements. Les femmes chasseurs de fantômes et des Lorraine Warren ont été appelées après que des membres d'une famille aient affirmé avoir entendu des voix mystérieuses et vu des apparitions. La maison est un ancien funérarium où les poulies pour soulever les cercueils sont toujours en place. Une table autrefois utilisée pour préparer les corps contient désormais du linge. Chaque soir depuis des semaines, Carmen dépose des matelas dans le salon. La famille et les enquêteurs dorment ensemble pour des raisons de sécurité et pour surveiller de près ce qui pourrait exister dans cette maison.
Et ce qui est bien, avec les Warren, c'est dès qu'il y a une caméra télé dans les parages, les choses deviennent encore plus intéressantes. Puisque Ed va donner son avis sur la raison pour laquelle cette maison est hantée. Attention, accrochez-vous, c'est du lourd.
Il y a de nombreuses années de cela, dans de nombreuses maisons, en particulier les maisons funéraires, de la nécrophilie a été pratiquée. La nécrophilie est l'abus de cadavres. Maintenant on ne dit pas que le propriétaire du funérarium l'a fait, mais c'est à cet étage que les actes criminels ont été commis.
Tiens, la nécrophilie, on nous l'avait jamais faite celle-là. On ne va pas tout vous montrer, mais c'est aussi lors de cette intervention que Ed et Lorraine Warren auraient montré le monte-charge du cercueil et que l'on aurait entendu le bruit qu'il aurait fait cette nuit-là alors que personne n'y touchait.
Mais malgré l'accueil réservé aux journalistes, il y a 2 choses que les Warren n'ont pas. Premièrement, de la patience quand on remet en cause le fait que la maison soit vraiment hantée.
Il n'y a pas de prêtre, il n'y a pas d'entité, alors qu'est-ce que c'est? Parce que ce n'est pas une maison complètement délabrée, ce sont des conneries. Allez, je me fiche de la crédibilité de cette maison.
On est loin du gentil Ed Warren de Conjuring, hein?
Wise men say.
Et la deuxième chose qu'il manque, eh bien c'est encore une fois des preuves. Alors, on pourrait se dire que, tant qu'ils enquêtent encore sur le lieu, ils ne veulent pas partager les preuves. Mais même avec la présence de tous ces journalistes, rien de concret n'a pu être filmé.
La famille semblait être sincère. J'ai parlé avec eux et j'ai parlé avec les enquêteurs sur place. Il ne m'est jamais rien arrivé dans la maison. Mais ils avaient tendance à avoir la réponse à ça. Le fait que je sois un journaliste était la raison pour laquelle le fantôme ne s'était jamais montré.
Les journalistes n'ont pas plus de preuves à montrer. Cette médiatisation aurait tout de même attiré des scientifiques qui auraient voulu faire des expériences sur place. Et les Warren auraient accepté la présence de ces sceptiques parmi eux. Et comme par hasard, ça ne se serait pas passé comme prévu pour ces 10 scientifiques.
Il y avait ces deux scientifiques et ils ont demandé à Ed s'il serait possible pour eux d'aller dans la maison et de passer la nuit avec nous dans la maison et voir exactement ce que eux, en tant que scientifiques, seraient en mesure de capter. Ils ont fui au milieu de la nuit.
Et ils n'auraient pas été les seuls à fuir. Au début du mois d'août, c'est le neveu des Warren, celui qui est censé être le chef d'équipe des chercheurs en paranormal, qui prendra ses jambes à son cou. Pas ouf. Surtout que si l'on en croit son propre témoignage, il n'aurait pas appliqué une des règles qu'il aurait lui-même mise en place, celle de ne jamais être seul dans la maison.
Alors que je notais les événements du jour, il a commencé à faire très froid et je sais que quand il commence à faire froid, une grande partie de l'énergie est puisée. J'ai commencé à appeler n'importe qui dans la maison, j'ai appelé les enfants, j'ai appelé les parents. Personne ne me répondait, et j'ai su que cet incident en particulier se concentrait d'une manière ou d'une autre juste sur moi. J'ai regardé vers le haut des escaliers et j'ai vu quelque chose qui commençait à se former là-haut. Elle a commencé à descendre et a dit, « Savez-vous ce qu'ils nous ont fait ? Je ne reviendrai pas sur cette affaire et j'ai quitté la maison. Est-ce que j'ai eu peur ? C'était la plus grande peur que je n'ai jamais eue. Je n'ai jamais été témoin de quelque chose de ce niveau-là depuis lors, ni aussi intense. Ce que j'ai vu, ce que j'ai vécu cette nuit-là, je ne pense pas que je l'oublierai. »
Pour les Warren, il était temps que des gens bien plus puissants qu'eux s'en mêlent. L'Église, grâce à de soi-disant preuves de hantise, mais surtout grâce à la médiatisation de l'affaire, l'évêché d'Hartford aurait accepté d'envoyer deux prêtres enquêter sur place à la demande des Warren afin de savoir si un exorcisme était nécessaire. L'un des deux d'ailleurs aurait été un prêtre pratiquant l'exorcisme. Pour assurer le coup, en plus de l'enquête, une prière aurait été effectuée dans la maison. D'après une interview de Lorraine Warren à NBC Connecticut, les deux prêtres ont écrit une lettre à l'évêque pour lui dire qu'il fallait faire appel à un exorciste, mais qu'eux ne voulaient pas le faire. Des forces puissantes étaient à l'œuvre. Finalement, le rapport de ces deux prêtres sera remis à l'archevêque John Francis Whelan. C'est ce dernier qui aurait accepté que l'on pratique un exorcisme formel chez les Snedeker. Le 6 septembre 1988, soit 9 semaines et demie après l'arrivée des Warren, un prêtre ayant reçu une formation au Vatican serait donc arrivé chez les Snedeker pour pratiquer un exorcisme. Les plus jeunes auraient été sortis de la maison afin que rien ne leur arrive. Ce fameux prêtre aurait été accompagné par deux autres prêtres, trois diacres, un homme seulement défini comme costaud, et un secrétaire qui prendra toutes les notes de ce qu'il se passe. Le prêtre exorciste aurait commencé par bénir toutes les pièces de la maison.
D'après ce que certains témoins ont raconté, dès le début du sacrement, une sorte de vrombissement se serait fait entendre dans toute la maison. Mais ce ne serait pas le pire, le démon se serait défendu face à cette attaque religieuse. Et la première personne touchée fut Amy.
J'ai été soulevée du sol et j'ai été étouffée par cette immense force. Je veux dire que je ne touchais littéralement plus le sol du tout. Tout ce dont je me souviens, c'est que je n'étais plus capable de respirer.
Je pouvais sentir le grognement derrière moi. J'ai posé ma main sur mon épaule et ça a tout calmé. C'est un peu comme si je l'avais ramené dans mon espace de sécurité.
Et la seconde et dernière personne qui fut attaquée lors de cette cérémonie ne fut autre que Ed Warren.
Il a ressenti comme si c'était le démon qui s'attaquait à son cœur, son point faible. Sa poitrine lui faisait mal. Il a été sorti de l'exorcisme et on l'a emmené dans le salon.
Pour rappel, si Carmen parle du point faible de Ed, c'est bien parce qu'il avait déjà subi une attaque cardiaque en 1985, l'obligeant alors à arrêter son activité pendant presque un an. La séance se finit donc sans Ed. À la fin de la messe, il est dit qu'un sentiment de libération et de chaleur envahit la maison. L'exorcisme aurait donc fonctionné. Mais d'après Carmen et les Warren, le démon ne serait pas parti sans laisser quelques traces de sa puissance.
Quand le rituel fut terminé et que nous sommes allés récupérer les reliques, ils ont constaté qu'il manquait les mains de la Madone.
Après avoir été exorcisé avec succès, il y avait un grand arbre devant la maison. Et c'est ce gros arbre qui est tombé et il a coupé l'électricité dans une grande partie de Southampton.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
In a large area of Southington.
Quoi qu'il en soit, l'exorcisme aurait fonctionné, offrant enfin un peu de paix à cette famille dans cette maison. Du moins pendant 6 jours. Ah non, il n'y a pas eu de retour de démon pour une fois, rien du tout, pas 40 exorcismes, c'est juste que la famille a déménagé. La famille s'est barrée 6 jours après l'exorcisme pour se rendre dans le Tennessee où avait été envoyé Philippe.
Étonnamment, il faudra attendre 4 ans avant qu'un livre sur le sujet ne sorte. In a Dark Place, The Story of a True Hunting, coécrit par les Warren, le couple Snedeker et Ray Garton, reviendra sur les événements qui se seraient passés chez les Snedeker, et se targuera d'être l'histoire d'une vraie hantise. En 2005, Al et Carmen se sont finalement séparés. Il faudra attendre 2009 pour voir un film qui s'inspirera de cette histoire, The Hunting in Connecticut, ou en français, Le Dernier Rite. Alors oui, on sait qu'au moment où l'on fait cette vidéo, le nom annoncé de Conjuring 4 est Last Rites, soit littéralement Les Derniers Rites, rappelant le nom français du seul film inspiré de l'histoire des Snedeker. Est-ce que du coup c'est un indice pour connaître le scénario du futur Conjuring ? L'avenir nous le dira. Mais pour en revenir au film de 2009, il a bien dû dégoûter Lorraine Warren, puisque celui-ci n'est pas inspiré du livre, mais directement des propos des Snedeker. Donc Lorraine n'a rien touché dessus. Rien, walou, pot de zombie.
Je n'ai pas vu le film, et j'ai l'impression qu'il est vaguement basé sur la vraie vérité de ce qui s'y est passé. Je n'ai rien du tout à voir avec ça.
Par contre, bien que séparés, ce sont les deux noms de l'ancien couple qui apparaissent au générique en tant que conseillers en création. La sortie de ce film créera quelques polémiques, mais on y reviendra. Le 9 janvier 2012, Philippe Snedeker décédera des suites d'un cancer, à l'âge de 38 ans. Il était devenu camionneur et laisse derrière lui toute la famille que l'on vous a présentée dans cette vidéo, mais aussi une femme et 4 enfants. Philippe Snedeker n'a, à notre connaissance, jamais accepté aucune interview filmée sur ce qui lui serait potentiellement arrivé dans cette maison dans le Connecticut.
Bon, maintenant que tout est compté et raconté, passons aux choses sérieuses. D'avance, si vous êtes de très grands admirateurs des Warren et ou si vous aimez vivre dans le mensonge et l'arnaque, et on vous remercie d'être arrivé jusqu'ici et on va vous dire à très vite pour un nouveau moment de culture. Pour les autres, on va étudier cette histoire avec une méthodologie un peu différente de d'habitude. Nous allons remonter le temps en utilisant les témoignages et les recherches afin de mettre en lumière le revers de ce cas Warren. D'habitude, on nous critique pour nos prises de position sur les méthodes Warren, sur les cas Warren, sur les Warren. Voilà. Mais là, on n'aura même pas besoin de le faire, puisqu'une très grande partie des témoignages joue en leur défaveur. Alors allons-y. Tout d'abord, à notre connaissance, la dernière apparition filmée de Carmen Reed, la mère de famille, fut pour le documentaire Devil's Road, The True Story of Ed and Lorraine Warren, sorti en 2020, et qui revient sur la carrière des Warren. On y voit Carmen, qui a l'air en forme, portant une croix autour du cou. Son histoire n'est évoquée que pendant 10 minutes, donc autant vous dire que le documentaire ne fait le taf qu'en surface. Et en même temps, il glorifie l'image des Warren, donc c'est mieux de pas trop fouiller, si vous voyez ce que je veux dire. Quoi qu'il en soit, si Carmen a accepté de participer à ce documentaire, c'est parce qu'à l'heure actuelle, elle donne des conseils en spiritualité et participe à tous les événements et conventions autour du paranormal pour raconter son histoire. D'après ses dires, depuis 1988, elle est particulièrement sensible aux forces surnaturelles, à tel point que lors d'une interview pour le magazine People en 2022, elle a déclaré « J'ai vendu des biens immobiliers pendant un certain temps. Si je ne te vendais pas une maison, tu peux parier que c'était parce que je savais qu'elle était hantée. »
Jusque-là, vous me direz, pourquoi pas? Elle a peut-être un don, après tout ce qu'elle a potentiellement vu, et puis après tout, gagner sa vie sur sa propre histoire, bon, c'est du déjà vu. Sauf que c'est carrément hypocrite de sa part de participer à l'éloge des Warren. Comme on vous le disait, la sortie du film Le Dernier Rite en 2009 a causé quelques polémiques. Lors de la sortie en DVD du film, un bonus a été ajouté par la société de production. Il s'agissait d'une série d'interviews dont une partie nous a servi pour cette vidéo. et dedans, on découvre que Carmen critique les Warren pour s'être servi de son histoire afin de faire grandir leur notoriété.
J'étais tellement en colère à ce moment-là que je me suis déconnectée des Warren et de tous les autres. Je ne voulais plus rien avoir à faire avec eux. J'ai vu quel genre de personnes ils étaient. Ils voulaient utiliser mon histoire pour acquérir leur propre notoriété.
Alors, pourquoi dire ça des Warren dans cette interview ? Eh bien parce qu'en 2009, au moment où le film est sorti en salle, Ray Garton, l'auteur qui a été embauché par les Warren pour écrire le livre autour de l'histoire des Snedeker, a lâché une bombe. Interviewé par les créateurs du site Damned Connecticut, l'auteur de fiction va ouvertement remettre en question l'histoire de la famille, et la méthode des Warren, et même la légitimité de leur neveu. Et ça, ça ne va plaire à aucune des parties. Je vais vous lire quelques passages de son interview, mais évidemment, si vous la voulez dans son intégralité, on vous mettra le lien en description. J'ai été impliqué en 1991, des années après que les événements présumés se soient produits. On m'a proposé le poste, et comme j'avais l'habitude de lire les exploits d'Ed et Lorraine Warren dans le National Enquirer, quand j'étais enfant, j'ai accepté. Lorsque j'ai constaté que les Snedeker n'arrivaient pas à suivre leur propre histoire, je suis allé voir Ed Warren et je lui ai expliqué le problème. « Ils sont fous », m'a-t-il dit. « Tous les gens qui viennent nous voir sont fous, c'est pour cela qu'ils viennent nous voir. Utilisez ce que vous pouvez et inventez le reste. Vous écrivez des livres qui font peur, n'est-ce pas ? Eh bien, inventez et faites peur. C'est pour cela que nous vous avons engagé. » La famille était dans un état lamentable, mais leur problème n'était pas surnaturel. Leur fils, autour duquel s'articulait toute leur histoire, je ne l'ai jamais rencontré. J'ai été autorisé à lui parler brièvement au téléphone, mais dès qu'il a commencé à me dire que les choses qu'il avait vues dans la maison avaient disparu après qu'il ait été soigné, Carmen a brusquement mis fin à la conversation. Les Warren m'ont dit à plusieurs reprises qu'ils avaient des vidéos d'activités surnaturelles réelles tournées dans la maison et qu'ils allaient me les montrer pendant que j'étais sur place, mais ils ne l'ont jamais fait. Ils m'ont dit qu'ils ne trouvaient pas la cassette. Je n'ai jamais vu l'intérieur de la maison, l'ancien funérarium de l'histoire, parce que les gens qui y vivaient à l'époque ne voulaient absolument rien avoir à faire avec ce cirque, et ils ont affirmé qu'il n'y avait aucun problème dans la maison. Les Warren ont expliqué que c'était parce que la maison avait été nettoyée par un prêtre qui avait pratiqué un exorcisme, mais à ma connaissance, l'église catholique n'a absolument rien à voir avec les Warren de manière officielle. Carmen Snedeker est celle qui a parlé le plus lorsque j'ai rassemblé des informations pour ce livre. Al Snedeker ne disait pas grand-chose. C'est Carmen qui menait la danse. Aujourd'hui, elle se présente comme une conseillère spirituelle et prétend avoir toujours eu ce don. Aujourd'hui, elle donne des conférences, ce qui me fait dire qu'elle a beaucoup appris des Warren et de leur neveu John Zaffis. Zaffis était présent lorsque je travaillais sur le livre, mais Ed et Lorraine m'ont clairement fait comprendre qu'il n'était pas vraiment un enquêteur, mais qu'il essayait simplement d'apprendre le métier. Aujourd'hui, on raconte que John a toujours été l'enquêteur principal dans cette affaire. Mon histoire n'a pas changé depuis 1992, mais leur histoire continue à subir toutes sortes de transformations. Après avoir appris que toute cette histoire avait été concoctée par des personnes à la recherche d'un contrat pour un livre et éventuellement un film, j'ai été pris au piège. L'éditeur ne s'intéressait pas du tout à ce que j'avais à dire. J'ai été engagé pour écrire ce livre, il a toujours été censé être une non-fiction. Ce n'était pas vraiment mon livre, je n'avais aucun contrôle dessus. J'avais été engagé pour faire un travail, et rien de plus. Et juste histoire d'en rajouter une couche parce qu'on trouve la phrase particulièrement drôle, voici ce qu'il a dit de Lorraine Warren en 2016, lorsque Benjamin Radford, un enquêteur en paranormal, préparait l'un de ses livres. Si elle me disait que le soleil se lèverait demain matin, je demanderais un deuxième avis.
Alors personnellement, quand on a lu ça, on n'a pas été très surpris. Quand on a commencé à étudier les cas Warren, sans a priori au départ, on a rapidement vu que ça puait. Mais pour une fois, c'est pas nous qui les mettons en porte-à-faux. Pour remettre un peu les choses en perspective, en 91, Ray Garton était déjà un auteur de fiction horrifique. Donc les Warren savaient qu'il écrivait de la fiction. Mais d'un autre côté, l'auteur est aussi critiqué, car en 2009, il était en pleine promotion sur un de ses livres. Et de la même manière que les Warren, il n'a pas touché un sou sur le film. Au-delà de ça, voici quelques réponses des personnes incriminées par l'auteur.
Il peut dire ce qu'il veut. Il ne m'a rencontré qu'une fois pendant moins d'une heure. Il m'a parlé peut-être 6 fois au téléphone. Je n'avais aucun droit éditorial sur ce livre. Mon histoire ne m'appartenait plus une fois que j'ai signé sur la ligne pointillée.
Je ne sais pas comment nous avons pu être mis en contact avec quelqu'un qui dirait quelque chose comme ça.
Il prétend qu'Ed Warren lui aurait dit, « Je me fiche de ce que vous en faites, faites juste une bonne histoire effrayante. Tous ces gens-là sont fous. » Je trouve cela terriblement difficile à croire venant d'un homme qui a consacré toute sa vie à ce travail.
C'est plus que blessant parce que mon mari n'est pas là pour se défendre.
Oh, bon Lorraine, tu vas nous faire pleurer.
D'ailleurs, en parlant d'elle, si l'on va jusqu'à la fin de la série d'interviews faite en 2009, on peut voir un carton précisant que Lorraine Warren affirme que tous les documents relatifs à la hantise ont été détruits lors de l'inondation d'un sous-sol. Comme c'est pratique.
En 2003 est sorti un docu-fiction produit par Discovery Channel. Celui-ci nous a servi surtout pour les témoignages audio, car il raconte l'histoire de la famille, mais en changeant la plupart des prénoms des intervenants, et en cachant leur visage. Toutefois, les événements sont plutôt collés à l'histoire racontée dans le livre. Ce qui n'est pas le cas avec le reportage de 2009, puisque certains éléments ont été modifiés ou rajoutés afin de coller un peu plus à l'histoire racontée dans le film. Un exemple. Dans le film, on peut voir à un moment l'équivalent de Taimi, la cousine, manger une pomme et se rendre compte que tous les aliments de la maison ont pourri. Cet événement n'a jamais été raconté ailleurs que dans le film. Pourtant, après la sortie du film, Taimi dira
« Je suis allée au réfrigérateur, affamée, cherchant juste quelque chose à manger 20 minutes avant tout allait bien. Quand je suis revenue, c'était pourri et détérioré. »
L'histoire des Snedeker semble effectivement évoluer avec le temps, comme le disait Ray Garton. Mais continuons à remonter dans le temps. Nous sommes alors en 1992, le livre In the Dark Place vient d'être publié. Le couple Warren et la famille Snedeker sont alors en pleine promo. Ils sont invités au talk show de Sally Jesse Raphael. Et ce talk show va être particulièrement intéressant car il confrontera pour la première fois la famille Snedeker, les Warren, un enquêteur sceptique et les voisins des Snedeker. Mais avant de commencer, on peut déjà constater une dichotomie. Dans son interview de 2009, Carmen précise qu'après la parution du livre, elle était fâchée contre les Warren et a coupé les ponts. Pourtant, c'est bien en 1992, juste après la publication du livre, qu'elle participe à cette émission.
J'ai appelé des gens nommés les Warren.
Ils sont restés avec nous durant 9 semaines.
Disons qu'elle s'est peut-être fâchée après la promo du livre. Vous l'aurez constaté, ils sont là pour raconter leur histoire. Nous avons d'ailleurs utilisé des extraits dans cette vidéo, comme le passage avec le lit, par exemple. Mais dans cette émission, ce qui nous intéresse maintenant, c'est surtout l'argumentaire des autres invités. Tout d'abord, le locataire qui a suivi les Snedeker, qui, lui, dit que le lieu n'est absolument pas hanté.
J'ai moi-même des enfants, en fait, j'ai un enfant de 7 ans et un autre de 6 ans, et je n'ai jamais rien vu de tel.
Mais évidemment, la réponse la plus logique dans le contexte est venue d'Allen.
L'exorcisme a fonctionné, vous êtes très chanceux.
Quelque part, on ne peut pas contredire cet argument. Même si ça équivaut à croire une personne qui dit avoir planté des râteaux dans son jardin pour éloigner des girafes, et que la preuve en est, il n'a jamais eu de girafes dans son jardin, alors qu'il habite en France. Alors, quels sont les autres arguments? Eh bien, Yvonne, l'une des voisines directes des Snedeker, affirme que les problèmes de fantômes sont arrivés exactement au même moment où il n'arrivait plus à payer le loyer. Et quand je dis que c'est une voisine directe, c'est carrément l'une des voisines du dessus. Car une petite chose, mais pas des moindres, c'est que la maison que les Snedeker louaient était en fait divisée en plusieurs appartements. Et ça, quand on a fait nos recherches, on a constaté que c'était un détail qui était très régulièrement effacé de l'histoire. Car pendant cette période, les autres locataires n'ont absolument rien vécu.
Vous avez pris du retard dans votre loyer et c'est là que ça a commencé.
Tout ce temps, il y avait un appartement à l'étage. Cette dame, avec qui nous avons discuté, a déménagé parce qu'elle était dégoûtée par toute cette publicité qui était en cours.
Bon, on vous passe toutes les disputes liées au talk show parce que c'est vraiment insupportable, mais concrètement, les Snedeker affirment que leur voisine directe du dessus, elle aussi aurait vécu des choses avant de déménager. Mais le souci, c'est qu'on a retrouvé une interview datant de 1988 où justement cette voisine est interrogée. Et concrètement, elle a l'air vraiment gavée par le tintamarre des Snedeker et pas vraiment apeurée par une potentielle hantise.
On lui a dit qu'il s'agissait d'un funérarium.
Vous dites aussi qu'ils avaient des problèmes de loyer ?
C'est exact. Depuis 2 mois et ce mois-ci n'a pas été payé. Elle a fait cette déclaration à un journaliste.
Quelle est la finalité possible, cette manifestation ?
L'argent.
Quel genre d'expérience avez-vous eue ?
Aucune.
Eh oui, Il y a ça aussi. Parmi les potentiels mensonges, il y a bien sûr celui qui dit que la famille était bien informée qu'il s'agissait d'un ancien funérarium. Déjà, tout le voisinage était au courant. Tous. De plus, dans une interview accordée au journal local Hartford Courant, le propriétaire des lieux, depuis 1985, Darrell Kern, affirme que la famille était pleinement au courant et qu'il ne s'était jamais rien passé de paranormal avant eux, ni après eux. Le propriétaire dira explicitement « il s'agit d'un stratagème pour gagner de l'argent ». Du coup, si tout ceci était pour l'argent, revenons sur quelques points clés de l'affaire, toujours en commençant par la fin, donc par l'exorcisme. D'après Johnny Kell, un enquêteur sceptique, véritable némésis des Warren et dont on vous a déjà parlé dans d'autres vidéos, « On t'adore, Joe, je suis une grande fan, Joe !» L'évêché d'Hartford a refusé l'exorcisme aux Warren.
D'après un article de journal que j'ai, le Bridgeport Newspaper, le diocèse refuse de confirmer qu'il y ait eu le moindre exorcisme là-bas.
Malheureusement, nous n'avons pas trouvé l'article en question. Mais on peut le voir dans les mains de cette voisine qui confirme les propos de Johnny Kell.
Le prêtre a dit qu'il n'y était pas. J'ai dit que j'avais la coupure de journal avec son nom dedans. Et il dit qu'il n'était pas là.
Avant cela, impossible de vous dire si ce qu'ont vécu les enquêteurs était vrai. Toutefois, et toujours dans ce talk show, on peut voir que les Warren se gardent bien de dire que l'homme qui les interpelle n'est autre que John Zaffis, leur neveu, le faisant simplement passer pour un enquêteur lambda.
Si vous demandez au monsieur qui est assis là, qui a passé 9 semaines dans la maison, qui a également subi des attaques similaires à la famille Snedeker,
que vous est-il arrivé?
Nous étions là pendant 9 semaines et demie pour essayer d'aider Carmen Snedeker. Lorsque nous nous attaquons à ces cas, nous devons documenter.
Qui ça nous?
Les chercheurs. Je travaille avec Ed et Lorraine pendant qu'ils font leur enquête. Je fais partie des personnes qui étaient là durant les 9 semaines et demie.
C'est vraiment la méthode des médecines show avec le complice dans le public. La conquête de l'Ouest voudrait, s'il vous plaît, monsieur et madame Warren, qu'on lui rende son arnaque. Et en plus, c'est faux. Il ne serait même pas resté 9 semaines d'après ses dires des années plus tard.
Et pendant qu'on est sur les Warren, attardons-nous un petit peu sur la raison de la hantise avancée par Ed, la fameuse nécrophilie. Et c'est ça, selon lui, qui aurait ouvert une porte démoniaque. Et du coup, si l'on résume très grossièrement, la chose la plus marquante de toute cette affaire, en tout cas pour la famille Snedeker, c'est quand même les agressions sexuelles et les pénétrations fantomatiques. Ce qu'on nous laisse comprendre, c'est qu'il s'agit quelque part d'une sorte de vengeance. Abus sur personne morte, donnant pour conséquence abus sur personne vivante. Mais dans ce cas précis, on pourrait aussi tout simplement parler d'un incube, un de ces fameux démons du cul qui s'en prendrait à la famille. Mais non, ce type de démon n'est pas évoqué. Et selon nous, il y a deux raisons à ça. Tout d'abord, nous sommes en 1988, et les Warren viennent tout juste de sortir de l'affaire des Smurls, où un démon sexuel aurait déjà été à l'œuvre. Surtout que l'histoire que raconte Al et un petit peu après Carmen fait clairement penser à une paralysie du sommeil. Mais deux enquêtes d'affilée avec le même procédé, ça aurait fait un petit peu redondant, et pas super génial pour la diversité des livres. Mais surtout, affirmer qu'il s'agissait d'un incube aurait été une façon d'admettre l'homosexualité des démons. Car dans l'idée, les incubes s'occupent des femmes et les succubes des hommes. Dans cette histoire, bien que Taimi et Carmen soient impliqués, eh bien Al affirme tout de même s'être fait... taper dans le tas de charbon et admettre l'homosexualité des démons, même ça pour des croyants comme les Warren, ça peut être compliqué. Mais attention, ça ce n'est que notre propre analyse. Passons maintenant au moment où l'affaire a été rendue publique. On pourrait se dire que les proches de la famille étaient déjà au courant, en tout cas plus ou moins, de ce qu'il se passait dans la maison. Et quand je dis proches de la famille, j'entends surtout les amis. Mais quand on regarde un petit peu tous ces reportages, il y a quelques personnes particulièrement intéressantes qui ont été interviewées. Il s'agit des amis d'enfance des plus jeunes membres de la famille. Et d'après eux, il n'y a jamais eu aucune info à propos d'histoires de fantômes ou de démons avant l'arrivée des Warren.
Brad n'a jamais mentionné quoi que ce soit à propos de fantômes qu'il aurait vus. Il n'a jamais parlé de bruit, de choses étranges qui se produisaient. Ce genre de choses ne reste pas secret quand vous avez 8 ans. Il semble que les Snedeker formaient une grande famille, jouaient ensemble, s'amusaient, tout se passait bien et puis boum, nous avons eu les problèmes et un exorcisme a eu lieu.
J'avais l'habitude de dormir dans la maison. J'étais, vous savez, moi et Kim, nous traînions dehors tout le temps. Vous savez, nous avions l'habitude de faire du roller dans leur allée et de jouer dans le sous-sol. Et ils n'ont jamais laissé entendre qu'il se passait quelque chose dans la maison. Tard dans la nuit, on veillait, vous voyez, conversation entre filles, vous voyez. Une chose comme ça aurait été dite.
Que vous croyez ou non en ces témoignages, il est très difficile de dire si les choses vécues par la famille sont réelles ou non. À vous de voir. Le fait que Philippe n'ait jamais donné une seule interview sauf à Ray Garton complique quelque peu les choses. Mais de notre point de vue, il y a tout de même un tout petit peu de vrai dans tout ça. Oui, Philippe était sûrement atteint d'un cancer, même si ce point est remis en cause par de nombreux sceptiques. Sa mort à l'âge de 38 ans d'un cancer nous laisse à penser qu'il s'agit là d'une récidive de sa maladie. Et oui, on pense qu'il a bien agressé sa cousine. Et pour nous, c'est même ça qui a inspiré les agressions décrites par la suite. Bah oui, histoire de coller ça sur le dos d'un démon et de dédouaner le petit chou de ses parents. Et pour ce qui est de son comportement, eh bien ça, ce sont ses amis d'enfance qui semblent avoir la réponse.
Comme vous le savez, enfin, comme vous l'avez dit, avant, votre fils avait un cancer et pour ça il prenait beaucoup de médicaments. Mais est-ce que vous saviez ou est-ce qu'il vous a déjà dit qu'il prenait également d'autres substances illégales ?
J'étais consciente qu'il prenait d'autres substances illégales.
Mais est-ce qu'il vous a dit qu'il venait chez nous et nous disait que tout ce que nous voulions nous pouvions l'obtenir ? Certaines des drogues qu'il prenait lui permettaient de voir des choses.
Hallucinogènes ?
Exactement, comme du LSD.
Si l'on en croit ces témoignages, Philippe consommait alors du LSD. Expliquant alors son isolement, son agressivité, ses hallucinations. Nickel. Une affirmation que Ray Garton défend également. Mais même là-dessus, les Warren avaient une réponse.
Les drogues augmentent la sensibilité. Nous savons que lorsqu'une personne prend de la drogue, elle est presque dans le même état qu'un clairvoyant.
Le rapport pour les Warren entre substances illicites et démons fluctue autant que la justesse des scénarios de Conjuring. Dans le cas Smurl, peut-être que vous ne vous en souvenez pas, mais Lorraine Warren laisse entendre que le trafic de ces substances attire les démons.
Qu'est-ce qui, selon vous, a pu déclencher tout cela? Y avait-il des planches Ouija avec lesquelles on jouait dans cette maison? L'un des enfants était-il impliqué d'une manière ou d'une autre dans le trafic de drogue ou dans les séances de spiritisme organisées dans la maison?
Vous vous demandez peut-être quelle pourrait être notre conclusion sur l'ensemble de l'organisation de cette histoire. Eh bien, même si vous vous posez pas la question, on va vous la donner. Les hallucinations et le comportement de Philippe ont donné une idée à la famille Snedeker, et pour nous, tout particulièrement à Carmen. N'ayant plus de quoi payer son loyer à cause des traitements médicaux, puis du centre spécialisé dans le Tennessee, la famille se sert des propos et des agissements de Philippe pour broder une histoire de démons qui s'en prenaient à la famille afin d'innocenter leur agresseur de fils et d'attirer les Warren, dont ils avaient forcément entendu parler un moment ou un autre durant ces 2 ans dans le Connecticut. Les Warren donnant régulièrement des conférences dans cet état, puisque c'est justement là où ils habitaient. Une fois sur place, les Warren améliorent l'histoire des Snedeker, en se servant du passé morbide du lieu. En faisant venir une équipe sur place, puis en invitant la presse, le cas allait forcément faire parler de lui. Enfin, ils font croire à un exorcisme réussi pour avoir une happy end pour la famille. Cette dernière, qui avait alors tout le temps de préparer un déménagement dans le Tennessee, réussit l'exploit de déménager moins d'une semaine après le soi-disant exorcisme. Et si l'on pense que c'est particulièrement Carmen qui est à la tête de ce canular, c'est à cause de ses agissements. Déjà, elle est la seule à apparaître dans absolument tous les reportages sur le sujet. Elle est également la seule de la famille à s'être spécialisée dans le paranormal après ces événements. Mais c'est surtout son comportement lors du talk show qui nous a particulièrement intrigués. Elle prend toute la place, raconte l'histoire de Taimi à sa place, répond à certaines questions à la place de son mari, surjoue l'histoire, mais surtout est beaucoup trop souriante quand elle raconte ce qu'elle a vécu.
En fait, il y a tellement de choses dans cette histoire qui ne collent pas, qui ne sont pas logiques, que c'est quasiment impossible de la prendre au sérieux. Sans ajouter les à côté, comme le fait que récemment, Tony Spera, le gendre de Ed et Lorraine Warren, a développé dans une émission Netflix que les Warren n'avaient besoin que de 28 jours pour connaître la nature et l'histoire exacte d'une hantise, alors qu'ils sont restés 9 semaines et demie chez les Snedeker. Ou encore que le neveu des Warren a tellement bien été éduqué par la méthode Warren qu'il a lui-même un petit musée chez lui où il conserve entre autres la Madone qui aurait perdu ses mains lors de l'exorcisme chez les Snedeker. Quoi qu'il en soit, on espère vous en avoir appris un peu plus sur ce cas, voire même vous l'avoir fait découvrir. Évidemment, comme toujours, vous êtes libre de croire en ce que vous voulez. Au moins sur ce cas, vous avez différents points de vue. Comme d'habitude, sur les cas de hantise, et quand c'est possible, on laisse le dernier mot et la fin de l'histoire aux concernés.
Les gens ont toujours peur des choses qu'ils ne comprennent pas et il est courant de rechercher la familiarité et il est plus facile de rejeter des choses qui pourraient vous effrayer ou ébranler votre monde. Tout ce que je fais, c'est raconter mon histoire. Ce que vous faites de mon histoire dépend de vous. Vous pouvez me traiter de menteuse, vous pouvez dire que je suis une voleuse, vous pouvez dire tout ce que vous voulez sur moi. Cela ne m'affectera pas.
Et comme d'habitude, on va se dire à très vite pour un nouveau moment de culture.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.